Celui qui envahira votre radio cette fin de semaine, les avant-midi, dès 7h à Week-end Extra, Mario. Mario? Hey, Mario! Mario! C'est Mario Tremblay!
Comment est-ce qu'il va?
Hey, Mario, mon petit Jésus de plâtre, toi! Comment ça va, Mathieu?
Salut, bon, Martin, ça va bien?
Depuis quand je t'appelle Mario?
Je sais pas, c'est la première fois.
C'est incroyable. Excuse-moi, une bulle qui a passé. Et pourtant,
aucun problème.
Je veux dire, plus le temps.
Puis c'est pas le petit mot doux que tu me disais dans les oreilles quand j'étais ton voisin de bureau.
OK. Molten Hill.
Oui.
On aura l'occasion d'entendre des précisions techniques de la ville de Sherbrooke tout à l'heure. Premièrement, le souhait de BCS, c'est une chose, mais à la ville de Sherbrooke, parce qu'on a entendu le conseiller ce matin, là, mais moi, ce qui m'importe, c'est au niveau du service des infrastructures urbaines, comment tout ça peut être réaliste sans amener des complications, entre autres, pour les résidents de la rue Saint-Francis?
Bien, c'est là le problème. Puis c'est surtout que c'est une rue qui est déjà extrêmement achalandée, celle de Saint-Francis. Tu sais, c'est le point qui sert de relais pour un paquet de gens qui veulent accéder plus vers le secteur de Fleurimont, puis qui habitent soit Lennoxville ou qui habitent même tout ce qui est Waterville, puis ce coin-là, et qui veulent avoir accès vers Fleurimont. C'est Saint-Francis qui vont prendre pour une majorité qui vont se rendre à cet endroit. En bloquant Molten Hill, puis en déviant la circulation vers là, puis c'est un quartier qui est a priori résidentiel aussi. Ça roule vite, sécuritairement parlant. Écoute, la dernière fois que je suis passé là, ça fait quand même pas si longtemps, mais de mémoire, il me semble qu'il n'y avait pas vraiment d'accotement non plus. C'est pas l'endroit le plus sécuritaire. Puis c'était une des nombreuses rues de Sherbrooke qui était dans un état misérable. Molten Hill est une voie qui, elle, est extrêmement importante. Tu sais, c'est le secteur, encore là, si tu pars de Ascot Corner, tu vas faire ta affaire dans le coin de l'Université Bishop ou à Lennox, où tu veux avoir accès au secteur du Mont-Bellevue, il y a peut-être des chances que ce soit une de tes voies de transit.
Oui.
Mais, tu sais, le projet de BCS, je le comprends, là, puis je comprends que s'ils arrivent, puis ils disent, on va payer à route, puis tout ça, dans le fond, comment dire... Au lieu d'avoir un nom catégorique tout de suite de la ville, ils donnent des arguments pour que ça mérite au moins réflexion.
En tout cas, de ce que moi j'ai comme information à date, c'est que ça sera à la charge de BCS.
Ben c'est ça. Mais oui, puis ils s'en sont pas cachés.
Mais pas pour Saint-Francis.
Non, mais non.
C'est ça l'affaire.
C'est là qu'est l'autre problème. C'est que si... Là, je comprends qu'on veut faire une autre route ailleurs qui va passer, mais si tu si t'amènes tous les problèmes sur une artère qui, elle, est déjà... pas mal utilisé, qui est déjà beaucoup de circulation, qui est déjà...
Qui est déjà
un enjeu de sécurité.
C'est ça.
T'as beau payer un chemin, puis t'as beau faire ça à tes frais, je veux dire, ça règle pas le problème pour les gens qui habitent dans le secteur.
Tout à fait. Alors, précision à voir d'ici la fin de l'émission avec... c'est le directeur adjoint aux infrastructures urbaines qui va nous parler.
Puis on se cachera pas, Molten Hill, c'est vrai que ça roule vite. Tu sais, c'est un coin, t'arrives, c'est une route de campagne pendant longtemps. Puis tu sais, avant le chemin Galvin, ça roule encore plus vite. Puis après ça, ben tu sais, c'est une route où c'est facile d'aller vite. Puis je comprends qu'il y a un enjeu de sécurité pour les gens de BCS aussi.
Ben oui.
Mais c'est pas mieux si tu transfères ça chez le voisin d'à côté non plus, qui est vraiment une rue résidentielle.
Mais c'est sur leur terre. C'est ça l'affaire. C'est leur argument, entre autres.
Oui, mais je veux dire, à un moment donné, la ville a construit quelque chose
ben
là.
Oui.
Pis...
Ben oui.
Tu sais, moi, je pense, en tout cas, ils sont mieux d'avoir. Ça mérite. T'es mieux de faire. T'es mieux, même si c'est à toi. Même admettons que tu as le droit de le faire. Moi, je considère que tu as toujours mieux de t'entendre avec tes voisins immédiats sinon, ton voisinage. Inquiète-toi pas que tes voisins, là, s'ils ont du trouble après ça avec tes étudiants qui mènent le trouble puis qui mènent de la foire ou qui font des bris, ils vont être pas mal moins tolérants à leur présence.
Ouais. Jour du souvenir cette fin de semaine.
Oui, écoute, je voulais te parler de ça parce que c'est quand même c'est l'armistice que l'on commémore.
Et 100 ans.
100 ans cette année, le 11 novembre à 11h11-1918, sera 100 ans. L'armistice, c'est le prononcé de la fin des combats. C'est le traité de Versailles qui prononcera la fin totale de la guerre. L'armistice, ça en fait partie aussi des points importants où on rendait les armes. Et c'est pourquoi je te parle de ça aujourd'hui, parce que tout ce qui est venu après, La Première Guerre mondiale, on en parle beaucoup moins puis parce qu'on a moins de mémoire collective pour simple et bonne raison, c'est que des survivants, il n'y en a presque plus. Des combattants, il y en a encore moins. Ce sont des gens qui sont extrêmement âgés. Écoute, la fin de la guerre a 100 ans cette année.
Ben, c'est ça.
Donc, mais ça aura changé dans le monde dans lequel on vit pour de bon parce que c'était la fin des grands empires. Ça a été le début de la fin de l'époque très colonial de l'Empire britannique. Ça a été le début de la fin, ça n'a pas été la fin totale. Ça a été la fin de l'Empire austro-hongrois qui a été séparé ensuite en pays, la République tchèque, la Slovaquie, les Slovènes, la Hongrie,
l'Autriche.
L'Autriche qui a été grandement réduite par la fin de cet empire-là, l'Empire ottoman qui a disparu ensuite, ce qui est devenu la Turquie. Puis, ce qui est venu, tous les autres pays, l'Irak et les autres pays, la Syrie, le Liban, etc., c'était tout sous le joug d'un même empereur, ça, à l'époque. Et c'était une guerre de cousins, la Première Guerre mondiale. Le roi d'Angleterre, le Kaiser allemand, qui était le dirigeant allemand, si tu veux, l'espèce de roi là-bas, et le tsar de Russie, qui, lui, perdra son titre plus tard, éventuellement, dans la révolte bolchevique. Ce sont des gens qui étaient tous des cousins. Ils étaient des descendants de la reine Victoria, ainsi que le tsar et le roi d'Angleterre avaient l'air de deux frères jumeaux tellement ils se ressemblaient. Puis ça a été la fin de cette espèce d'empire-là, si bien que le monde que l'on connaît maintenant, avec les frontières actuelles à quelques différences près, là, c'est celui qui émane de la Première Guerre mondiale. Mais c'est surtout aussi à la fin, Martin, une montée que l'on voit ressurgir en Europe, en Amérique aussi. La fin de la Première Guerre mondiale a amené une confrontation beaucoup plus idéologique gauche-droite et ça a poussé des montées nationalistes, comme on revoit depuis quelques années en Europe. Et on dit, normalement, on a la faculté avec l'intelligence que l'on a maintenant, la capacité de s'informer, la documentarisation qu'on n'avait pas à l'époque, de se souvenir de ça. Et c'est pour ça que je te parle de ça aujourd'hui, parce que le jour du souvenir... devrait nous rappeler qu'il y a eu des dérives extrêmement lamentables par la suite.
Mais tout ça émane aussi de guerres, de pouvoir, de guerres. Tu sais, je veux dire, c'est plate à dire, là, mais les hommes qui ont servi là ont été tués malheureusement pour des gains de territoire de dirigeants de pays.
Ah oui, mais pour des mégalomanes, des dictateurs, puis des gens
parce
qui
que, tu sais, on s'entend-tu que tout ça, selon l'histoire qu'on peut encore lire aujourd'hui, ben c'est un terroriste serbe qui avait tué l'archiduc Ferdinand, puis qu'après ça, il y a eu l'escalade. Mais on s'entend-tu que bien des dirigeants de pays de cette époque se sont servis de cet événement-là pour faire la guerre.
Beaucoup d'industriels qui... en France, d'ailleurs, la France était à peu près l'un des seuls pays qui n'était pas monarchique à l'époque, qui était entré en guerre, mais tu avais beaucoup d'industriels français qui pressaient le gouvernement disant à entrer dans une guerre comme celle-là pour aider leur économie, pour aider leur industrie. Puis après ça, les dérives bolchéviques, mais du fascisme, entre autres. Ouais. Mussolini a été poussé au pouvoir dans les années après la Première Guerre mondiale avec son mouvement fasciste. C'était un journaliste au départ, Benito Mussolini, puis c'est devenu un dictateur qui a inspiré beaucoup. On a parlé d'Adolf Hitler, qui était beaucoup inspiré parce que le mouvement que Mussolini avait fait en Italie. Puis lui, il avait l'appui des industriels. Il y avait Pirelli en arrière de lui, le fabricant de pneus. Tu en avais quelques-uns aussi comme ça, des grands industriels qui appuyaient ça parce qu'il y avait un discours... Écoute bien ce que je vais te dire. Tu vas voir qu'on n'est pas loin de ce qu'on... Il y avait un discours populiste d'intolérance qui misait également sur des failles où les gouvernements ne semblaient pas être en mesure de répondre. Et en plus, les oppositions étant affaiblies, bien, ça a monté à ces espèces de courants-là. Ça ne nous rappelle pas que cloche, cette affaire-là?
Quelques-unes.
Le jour du souvenir, rappelez-vous. Rappelons-nous donc de ça.
Et rappelons-nous surtout de gens innocents, malheureusement, qui ont perdu la vie.
69 000 Canadiens en passant. Hey, demain, Apocalypse, ça joue à 22h30. Si vous ne l'avez pas vu, c'est les années d'après-guerre. C'est super intéressant.
Salut!
Salut!
On t'écoute en fin de semaine.